Moi je suis amoureux de Paname.
J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie.
Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal.
Paris, 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 que je te quitte.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Paris, je t'aime, moi non plus.
Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Raphaël Spagnoli.
Sous le ciel de Paris marchent les amoureux.
Elle est née au Canada, au Nouveau-Brunswick, et elle chante depuis ses 8 ans. Un premier album à 14 ans, puis elle a été la fleur de lys de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. D'abord dans sa version anglo-saxonne au Canada, puis en France, en version originale. Elle est arrivée à Paris en 2000 et a représenté la France à l'Eurovision avec sa chanson « Je n'ai que mon âme ».
Je n'ai que mon âme pour te parler de moi. Oh, juste mon âme, et ma voix.
Depuis, tout le monde la connaît et tout le monde l'aime. Elle est la chanteuse dont le capital sympathie n'a d'égal que le nombre de disques d'or ou de platine. Avec elle, et Pascal Obispo, nous nous sommes tous demandé ce que nous ferions si...
Si on devait mourir demain.
Et ce sont dans ses chansons que l'on trouve ses blessures et ses faiblesses.
Celle que j'avoue qu'à demi-mot.
Mais elle a aussi chanté des comptines pour enfants, a été présentatrice télé, elle a fait des duos avec les plus grandes voix de la chanson et est aussi maman et professeure de yoga. L'un de ses albums s'appelle « Bonne nouvelle », comme la station de métro. Mais ce n'est pourtant pas là que je la retrouve. Celle qui en ce moment chante dans les églises de France et de Navarre a choisi l'emblématique église de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris. Et c'est donc ici que j'ai la joie d'accueillir la chanteuse à la voix divine. Natacha Saint-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir accepté cette invitation à parler de chansons et de Paris, et surtout de me permettre de venir dans ce monument très très impressionnant.
Oui, j'ai toujours eu une fascination pour l'église de la Madeleine, qui a une forme assez atypique en forme de temple. Et quand on est à l'intérieur, je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'être transportée des siècles derrière et d'être cachée dans un endroit où on ne devrait pas prier normalement, comme si on nous ramenait à cette époque où les chrétiens devaient se cacher pour pouvoir pratiquer leur foi. Je ne sais pas pourquoi cet endroit m'inspire ça.
J'ai lu, je me suis un tout petit peu renseignée avant, j'ai lu que Napoléon avait voulu l'ériger vraiment comme un temple à la gloire de sa grande armée. Et qu'elle avait failli même être transformée en gare. Que ça avait failli être la première gare de Paris aux alentours de 1830.
Eh ben, je suis ravie que ce soit demeuré une église dans laquelle j'ai eu la chance de me produire déjà une première fois chanter. Et ça fait partie de mes rêves de pouvoir revenir en spectacle ici à l'église de la Madeleine.
C'était en 2013, je crois, avec Angoune, vous étiez...
Exactement. C'était au moment du tout premier album autour des textes de Sainte Thérèse de Lisieux, parce qu'il y en a eu d'autres derrière, en 2013. Et j'étais accompagnée de plusieurs artistes. Grégory Turpin, Angoune, Elsa Tovati.
Sonia Lassen.
Sonia Lassen aussi, oui, c'est vrai. Et on était une belle petite équipe qui s'était produite ici.
Ça doit être quand même très impressionnant.
C'est très impressionnant parce que c'est grand, donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y viennent. Et le lieu est lui-même impressionnant. On le sent lourd, on le sent imposant. Et ça fait partie des endroits où j'ai connu le plus grand trac. Je me souviens avoir voulu, avant le spectacle, il y a juste à l'entrée, quand on entre dans l'église, sur notre gauche, une Vierge Marie. Et j'ai voulu aller dire « Je vous salue Marie » là-bas pour me porter chance avant le spectacle. Et j'ai oublié le texte de cette prière que je connais par cœur depuis toujours. Donc je pense que c'est ici que j'ai vécu un de mes plus grands tracks. Ouais.
Et depuis l'album avec les textes de Thérèse de Lisieux, puis votre nouvel album Jeanne, donc vous chantez maintenant dans les églises.
Je chante dans les églises depuis presque 10 ans maintenant. Parce que je trouve que ces lieux ont quelque chose de particulier. Déjà, c'est un décor naturel incroyable. On n'a pas besoin d'amener un décor artificiel. On utilise celui qui est déjà là, qu'on met en lumière. Et chaque soir, on a un nouveau décor parce qu'on a une nouvelle église et donc une nouvelle mise en lumière. C'est beaucoup de travail pour mes équipes. Et en même temps, ça offre au public quelque chose de complètement différent et de très joli. Et le public lui-même, qu'il soit croyant ou non, viennent dans les églises avec une écoute différente de celle qu'on peut avoir dans une salle de spectacle. Peut-être parce que les attentes sont différentes, peut-être parce que, peu importe si on a une foi ou pas, on a en tout cas une forme de respect dans ces lieux sacrés qui fait qu'on ne voit pas les choses de la même façon, qu'on ne reçoit pas les choses de la même façon.
Il y a un côté très authentique, j'imagine.
Il y a un côté très authentique. Il faut se dire aussi que je n'ai pas de scène. Je suis sur l'autel. Là, ici, l'autel, il est assez élevé. C'est rare que ce soit aussi élevé. D'habitude, c'est 2, allez, voire 3 marches. Et je suis donc à la hauteur du public. Donc, c'est pas un spectacle où moi, je suis devant et je fais quelque chose et vous regardez. C'est vraiment un truc où on est baigné ensemble dans ce même projet.
Là, je nous entends parler, forcément, il y a ce respect, cette ambiance qui nous impose aussi de parler à voix basse. Mmh. Est-ce que votre voix change dans les églises ?
Je ne pense pas que ma voix change. Avec les années, ma voix a changé, forcément, puisque j'ai vieilli, que j'ai gagné des graves. Probablement qu'en la travaillant, je la maîtrise un peu plus qu'à mes débuts. Mais je n'ai pas d'obligation particulière de changer quoi que ce soit dans les églises. D'ailleurs, moi, je fais des spectacles avec des textes un peu inspirés, ceux de Thérèse de Lisieux, qui sont, eux, voire très inspirés.
Au pauvreté, mon premier sacrifice, jusqu'à la mort, tu me suivras partout. Car je le sais, pour courir dans la lice, l'athlète doit se détacher de tout.
Mais il y a plein d'autres artistes, que ce soit Laurent Voulzy.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire, vous êtes si loin d'ici.
Ou Nicoletta, qui a chanté beaucoup dans les églises, ou Patrick Fiori, aujourd'hui qui chante dans les églises. On redécouvre ces lieux qui sont des trésors architecturaux, qui renferment des œuvres d'art incroyables, et une acoustique particulière. Et ça devient donc, pour le spectacle, un endroit où on va pouvoir profiter d'un spectacle avec tous nos sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les oreilles qui seront sollicitées, il y a aussi les yeux, il y a le cœur, il y a plein de choses qui vont entrer en compte. Et chaque église a son odeur aussi, puisqu'il y a les encens qui sont brûlés pendant les messes. Et donc, on a à chaque fois quelque chose de différent.
C'est vrai qu'on n'en sent pas trop, là. On arrive en fin de messe, en fait.
Tout à fait.
Et on a la violoniste qui pose à l'instant son violon. Mais il n'y a pas de... Je ne ressens pas d'encens.
Il n'y a pas d'odeur ici. L'endroit où c'est le plus marqué, c'est à la basilique de Lisieux, où là, on a l'odeur de rose, si familière et si symbolique de Thérèse.
Bah, Thérèse, justement, donc vous avez pris les textes qui étaient des pièces de théâtre.
Pour le dernier album, c'est ce que j'ai fait. Il y avait 2 pièces de théâtre qu'avait écrit Thérèse de Lisieux. Peu comme si c'était 2 actes finalement, la première partie de la vie de Jeanne d'Arc et la deuxième partie. Et j'ai rassemblé ces 2 pièces pour ensuite les diviser en 12 parties. 12 parties qui allaient créer l'histoire globale, un peu comme on aurait fait une comédie musicale finalement, sauf que là il n'y a qu'un seul personnage, c'est Jeanne d'Arc, qui va nous raconter son histoire. Et il faut savoir que Thérèse de Lisieux va écrire cette pièce de théâtre en mettant beaucoup d'elle-même dans son personnage de Jeanne d'Arc. Elle va elle-même d'ailleurs jouer ce personnage de Jeanne d'Arc. Elle nous la décrit comme une enfant faible et fragile, comme elle était. Et un peu plus tard, la Jeanne d'Arc adulte est décrite par Thérèse comme une femme silencieuse, solitaire, comme l'était Thérèse de Lisieux, elle aussi. Donc finalement, à travers ce personnage de Jeanne d'Arc, on découvre aussi un peu de Thérèse de Lisieux.
Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie.
C'était un peu des féministes avant l'heure, non ?
C'était totalement des féministes avant l'heure. Il faut voir ce qu'on entend par féministe. Mais ce sont des femmes qui n'ont pas accepté d'être réduites, qui n'ont pas accepté d'entrer dans le moule que la société leur avait préparé. Thérèse de Lisieux, on va lui demander à 15 ans de rester silencieuse quand elle rencontre le pape. Alors, moi, je suis née en 1981, bien plus tard que Thérèse. Si j'avais à rencontrer le pape aujourd'hui dans les années 2000 et qu'on me disait « tu ne parles pas », eh bien, je ne parlerai pas parce que je n'ai pas ce côté rebelle en moi qu'avait Thérèse, puisque à 15 ans, elle voulait entrer au Carmel. Et donc, elle a décidé, en rencontrant le pape, eh ben de parler, de plaider sa cause, de lui demander qu'il intercède pour qu'elle puisse, malgré son jeune âge, entrer au Carmel. Évidemment, le pape ne va pas le faire et va rentrer quelques années plus tard au Carmel, mais c'est une femme qui a décidé de ne pas répondre aux attentes qu'on avait d'elle et de ne pas se plier non plus à la vision très janséniste de la religion de l'époque. À l'époque, on est dans une religion catholique qui est très punitive, où Dieu est le chef et on doit répondre à ses commandements, sinon on est un mauvais chrétien et sinon on ne sera pas aimé. Et elle, elle va nous dire, mais ce n'est pas ça en fait. Dieu est amour, Dieu est pardon, et vous n'avez pas à faire plus que ce que vous êtes capable de faire. Et en fait, votre vraie mission sur Terre, c'est d'aimer et c'est d'être heureux. Et là, on est dans une vision qui est très, très moderne de l'Église et elle va se dresser contre tous ces hommes qui dirigent encore aujourd'hui l'Église et elle va imposer sa loi jusqu'à en devenir docteur de l'Église. Ça fera plaisir à plein de gens qui sont assez modernes, mais ça va aussi fâcher plein de gens qui, eux, sont très réfractaires à cette vision de Thérèse.
Les femmes sont très importantes dans vos chansons, Thérèse, Mère Teresa.
Mère Teresa, Jeanne d'Arc, et Jeanne d'Arc est une autre figure de du féminisme pour moi, puisqu'elle va diriger une armée alors qu'elle est une femme, qu'elle est une enfant, elle va s'habiller comme un homme. C'est d'ailleurs comme ça qu'on va la piéger. On ignore beaucoup, mais Jeanne va promettre de ne plus porter d'habit d'homme. Et on la jette au cachot, et comme on n'arrive pas à lui faire dire que finalement elle n'entend pas de voix et qu'elle a fait de la magie, de la sorcellerie, on va la mettre au cachot nue, et on ne lui lance que des vêtements d'homme. Et donc, soit elle reste nue, soit elle met ses habits d'homme. Et donc elle va mettre les habits d'homme pour se protéger, et elle sera donc accusée de parjure, puisqu'elle avait juré, promis, de ne plus porter d'habits d'homme. Et c'est comme ça qu'on va commencer à pouvoir écraser un peu cette Jeanne d'Arc et l'amener jusqu'au bûcher en l'accusant de parjure et d'hérésie puisqu'elle a refusé de réciter le Notre Père devant des juges alors qu'elle était en habit d'homme et voulait attendre d'être habillée convenablement et de parler devant un prêtre. Donc c'est une femme aussi qui va avoir son propre combat et ces femmes-là, il y a Mère Teresa aussi que vous citez, m'inspirent énormément puisque avec la foi, en elle, en la vie, en Dieu, en les hommes, en ce que vous voulez, ces femmes-là vont mener des combats sans jamais fléchir.
Ça me fait penser, alors on ne va pas la fredonner dans une église, mais ça me fait penser à une de vos chansons que j'aime beaucoup, qui est sur votre album Bonne Nouvelle, que j'ai cité tout à l'heure, qui est La Princesse.
Elle aimerait avoir un mari, mais elle aime aussi les garçons. Elle cherche qui de son appétit ou de sa tête aura raison. Comme elle se sent un peu unique, l'amour c'est trop petit pour elle. Mais le dimanche soir elle panique, alors elle sort rouler des pelles. Et tous les jours elle lutte entre la princesse et la pute. Le lundi elle s'adore, le mardi elle se rebute, elle ne peut plus. Voir le bruit de cette balançoire qui promène son cœur entre être et avoir, être et avoir.
Qui est déjà aussi.
Qui est une fille différente.
Différente
aussi. En fait, on est dans une société qui veut beaucoup nous mettre dans des cases et nous réduire à une seule chose, alors qu'on est capable de plein de choses. Et vous l'avez dit tout à l'heure en introduction de cette émission, moi je suis chanteuse, je suis maman, je suis animatrice radio, télé, je suis professeure de yoga. Et en fait, pour beaucoup de gens, c'est déstabilisant. Ces multiples facettes. On aime bien mettre les gens dans les cases, ça nous rassure et ça nous permet de dire, bon, elle c'est la rigolote, elle c'est la sérieuse, elle c'est la chanteuse. Sauf que tout ça va créer chez les gens des pensées restrictives finalement qui vont les empêcher de s'épanouir à leur plein potentiel et de faire des choses qui peut-être auraient pu les changer eux ou leur environnement.
On va parler aussi de chansons en général, avant de parler de Paris plus en particulier. Quand on grandit dans les années 80 au Canada, souvent je crois que les gens vous prennent pour québécoise, mais non.
Non, je suis du Canada anglophone. J'ai grandi en français dans un tout petit village qui s'appelle Bathurst, où il y a une majorité d'anglophones et où les francophones étaient un peu à l'écart.
Je ne me suis pas risquée à prononcer le nom de votre
Bathurst, oui, non. C'est plus facile que ça n'a l'air.
Vous avez commencé à chanter très très jeune, à 8 ans. Qu'est-ce qu'on écoute ? À quoi on est biberonné, est-ce que c'est forcément...
J'ai écouté beaucoup de musique anglophone, je vais être très honnête. Il y avait une seule radio francophone et elle s'adressait plutôt à mes parents qu'à moi. Donc on écoutait, comme on est aux frontières des États-Unis, on capte toutes les radios américaines et donc on écoutait plutôt les radios FM, pas les radios AM. Et on écoutait des stations américaines, donc j'écoutais beaucoup plus d'artistes américains. Après, chez les francophones, j'ai écouté Céline Dion comme tout le monde.
Il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer.
Mais à l'adolescence, j'ai vite été plutôt passionnée par U2, AC/DC, les Cranberries. J'avais un esprit un peu rebelle, un peu rock à ce moment-là, qui s'exprimait a fortiori que dans la musique.
Vous avez aussi sorti un album qui s'appelle Mon Acadie, où on retrouve quand même des grandes voix acadiennes.
Tout à fait.
Je pense à Edith Butler, à Zachary Richard, et ça, il me semble qu'en France, on connaît plus la version de Julien Clerc.
Oui.
Travailler, c'est trop dur.
Travailler, c'est trop dur.
C'est une chanson qui a été créée par Zachary Richard d'ailleurs. Les gens le savent très peu, et est-ce très grave, non. En Acadie, il y a des chanteurs francophones qui sont très très peu connus, puisque le Québec est un marché très protectionniste et qui va mettre en avant les artistes québécois en premier, les artistes français en deuxième, et les artistes acadiens, on est un peu, si vous voulez, comme les Belges des Québécois. Et donc, on n'a pas une grande place. Et j'avais à cœur de mettre en avant cette histoire, ce pan de l'histoire des francophones qui est très mal connu parce qu'on s'est arrêté aux Québécois et à Frontenac qui a gagné contre Montcalm. C'était beaucoup plus glorieux que ces Acadiens qui ont été déportés en Louisiane et qui sont remontés chez eux à pied et qui ont continué de vivre un peu terrorisés par les Anglais. Et en même temps, aujourd'hui, plus on avance, plus le Nouveau-Brunswick, plus l'Acadie, qui regroupe plusieurs petites provinces de l'Atlantique, devient francophone, francophile. Et c'est un combat de longue haleine, mais qui risque d'être gagné, en fait.
Et on remercie Michel Fugain qui a
parlé des Acadiens, tout à fait.
Vous êtes arrivé très jeune en France. C'est quoi le cliché ? Qu'est-ce qui est difficile pour une jeune Canadienne ?
J'avais 18 ans quand je suis arrivée ici. Tout est difficile. Je suis arrivée à Paris. Donc, je vais parler de Paris. Il ne faut pas non plus faire trop l'amalgame. C'est une ville très agressive. Je viens d'un pays où on ne demande pas les choses. On attend que les gens nous proposent et après on dit oui ou non. Et je suis arrivée dans un pays où les gens demandent beaucoup parce que c'est une autre philosophie de vie. On dit bah, si je ne demande pas, je ne saurai jamais. Sauf que du coup, moi, je me suis retrouvée avec cette politesse canadienne qui est si quelqu'un nous demande, c'est que c'est vraiment très important et donc on ne dit pas non.
D'accord.
Ça ne se fait pas de dire non, c'est mal poli. Donc j'avais cette faculté à dire oui tout le temps parce que j'étais poli. Et finalement, je me suis retrouvée débordée en termes d'agenda, en termes d'amitié, en termes de choses à faire. Et très très mal dans ma peau ici, je ne me retrouvais pas. Parce que je trouvais que c'était une ville agressive, je trouvais que les gens demandaient beaucoup, je trouvais que les restos fermaient entre le repas du midi et du soir. Et du coup, on essayait de me dicter à quelle heure je devais manger. Au début, j'ai pas du tout cherché à m'intégrer finalement, j'ai cherché à garder mes bases canadiennes dans un autre pays. Et quand j'ai compris, ça m'a pris probablement 10 ans, hein, quand j'ai compris que, en fait, quand on change de pays, il faut oublier nos bases, qu'elles ne fonctionnent pas. C'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on se ressemble. Et donc, il faut apprendre la culture d'un pays qui a probablement toutes les raisons du monde d'être comme il est. Et à partir du moment où on acceptera de ne plus fonctionner avec nos règles d'avant et d'intégrer ces nouvelles règles-là, on sera bien. Mais ça m'a pris un peu de temps. J'avoue, un peu trop de temps même.
J'espère que vous n'avez pas accepté cet entretien par politesse canadienne.
Tout à fait. Non, non, non. Il n'y a pas de, il y a absolument pas. Je n'ai plus, je n'ai plus ce problème. Non.
Et car d'ailleurs, depuis, vous y êtes restée.
Mais j'y suis restée. Et souvent, les gens pensent que je vis encore au Canada, mais ça fait 22 ans que je vis en France, sachant que j'ai vécu 18 ans au Canada. Je suis en France depuis plus longtemps qu'au Canada.
Alors j'ai l'habitude de faire une sorte de petit questionnaire de Proust.
Ah oui.
Donc c'est un petit questionnaire de Proust sauce parisienne. Si vous étiez un arrondissement ou un quartier?
Je crois que je serais le 2e arrondissement de Paris. Ah non, je pense que je serais Montmartre. Je sais pas, le 2e ou Montmartre, c'est deux arrondissements dans lesquels j'ai vécu, que j'aime beaucoup. J'ai grandi dans une toute petite ville et j'aime bien le côté village de Montmartre. Je connaissais les commerçants, je connaissais les autres habitants. Il y a une vraie vie presque de province à Montmartre et ça m'allait très bien.
Malgré les touristes?
Malgré les touristes. Et en même temps, je pense que les touristes, ça amène ce petit côté international qu'à Montmartre. C'est un village international.
Plaisir gastronomique, une petite chose sucrée, salée.
Il y a plein de choses que j'aime beaucoup. Paris est cosmopolite, il nous propose tellement de trucs. Aujourd'hui, je vous aurais probablement pas dit ça hier et je vous dirai autre chose demain. Je dirais la cuisine thaï qu'on peut trouver dans le 10e chez Mademoiselle Sean.
Alors, je ne sais pas si vous prenez beaucoup le métro.
Je prends très très peu le métro, mais je l'ai pris aujourd'hui pour venir vous voir, pour être sûre d'être à l'heure.
Merci. Il y a une station?
Abbès, c'était mon métro. Et,
avec ses marches.
Ses marches, et c'est un des métros les plus profonds. Et mon fils regardait un reportage sur les constructions les plus profondes sous la Terre, et le métro Abbès fait partie des 10 constructions les plus profondes sous la Terre.
Alors justement, en tant que maman, si vous avez peut-être un dimanche à Paris.
Mon fils est fan du musée du Louvre. Il aime beaucoup l'égyptologie. Là, je sais qu'il y a une nouvelle exposition autour de Ramsès II. On ira sûrement voir ça. On est allé au musée des armées aussi, que je n'avais jamais fait sans enfant, qui est très intéressant puisqu'on va voir les armées de partout à travers le monde, entre autres d'Asie. Et on voit ces toutes petites cottes de mailles fabriquées pour taille enfant. C'est assez impressionnant et ça permet aussi aux enfants, mon fils a 7 ans, de se dire que on a de la chance de vivre à notre époque.
Vous avez revêtu la cotte de maille pour le...
Mais oui, parlant de cotte de maille, oui, j'ai revêtu la cotte de maille pour Jeanne d'Arc.
Ça ne doit pas être très agréable.
C'est
quand même
très désagréable, ça arrache les cheveux et c'est très très lourd.
Est-ce que y a un film en particulier qui vous fait penser à Paris?
Oui, le Da Vinci Code, film qui avait été tourné dans le Louvre. J'avais adoré ce livre. J'ai aimé ce film parce qu'on y voit Paris. J'aime bien lire des livres ou regarder des films où je reconnais les endroits. La première fois que ça m'est arrivé, c'est quand j'habitais Montréal, parce qu'il y a très peu de livres qui racontent le Nouveau-Brunswick, à part des livres d'histoire. Et j'avais lu un roman qui se passait à Montréal, rue Saint-Denis, et j'habitais là. Et ça m'avait fasciné de pouvoir lire dans un livre mon environnement.
On a parlé du fait que vous soyez prof de yoga. Alors, s'il en existe un, est-ce qu'il y a un lieu zen pour vous à Paris ou un lieu ressource?
Il y a plein de lieux ressources à Paris. Il y a des parcs formidables dans Paris où on peut aller se balader, qu'on ait envie d'un endroit très dégagé, d'un jardin à l'anglaise ou d'une forêt, on peut. Et il y a un autre endroit que les gens pensent un peu moins à visiter, c'est la Seine. Et pour 10 euros, on peut monter sur un bateau mouche et on peut se laisser naviguer par une belle journée sur la Seine pendant plus d'une heure et on va voir tous les monuments qu'on aime, mais avec un autre angle. Et c'est très agréable à faire. On a l'impression d'être en vacances quand on fait ça.
Sous le pont national, comme elle arrivait mal à charger le rouleau blanc et noir.
Je sais que souvent, quand des gens viennent me rendre visite de Suisse ou d'ailleurs, c'est une des choses touristiques que je fais et que j'apprécie encore à chaque fois.
Et ben moi aussi.
En plus, on a pas mal aux pieds.
Et c'est assez zen.
De Bercy, demandant déjà si je voulais bien aller dans la chambre.
Si vous étiez une salle de spectacle, alors comme artiste ou comme spectatrice?
Ah, il y a des lieux mythiques. Il y a le Théâtre des Folies Bergères, qui est un très bel endroit. Il y a plein de petits théâtres. Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, qui est joli aussi. Il y a évidemment des salles comme l'Olympia, qui sont des salles mythiques.
Où vous avez chanté?
Où j'ai chanté, mais j'aime bien les petits théâtres. Le Casino de Paris aussi est très joli avec ses fauteuils rouges. J'aime bien les vieux théâtres. Et si on sort un tout petit peu de Paris, qu'on va en banlieue, il y a le Théâtre de Versailles, la salle de spectacle qui est incroyable.
Et si vous aviez un petit bonheur parisien, juste pour vous, très égoïste?
Très égoïste, alors ce serait de me balader dans Paris au mois d'août quand il n'y a presque personne. Par une belle journée d'été où il ferait ni trop chaud ni trop froid, je marche dans les rues, je flâne, j'entre dans les petites boutiques, je trouve des petits trésors dans ces concept stores qui existent à Paris et je m'arrête boire des thés, plein de thés tout au long de la journée.
Et enfin, si dans le ciel de Paris s'envolait une chanson, ce serait laquelle ?
Voilà, quand vous dites ça, ce qui me vient en tête, c'est « Dans le ciel de Paris, nananana, c'est la chanson qui me vient.
Vous êtes une référence en matière de chansons francophones entre l'émission les chansons d'abord et le nombre incroyable de duos que vous avez fait.
J'ai fait beaucoup de duos, mais c'est parce que j'aime bien. J'aime bien ne pas être seule.
Ouais.
J'aime bien partager la scène. Je trouve qu'il se passe quelque chose de plus grand quand on est plusieurs sur scène. J'ai eu la chance de rencontrer, d'interviewer, de collaborer avec tellement d'artistes. Et à chaque fois, on apprend quelque chose. À chaque fois, on grandit un tout petit peu. Et je pense qu'on dit souvent aux enfants dans le sport, quand ils sont un petit peu tristes d'avoir une défaite, mais c'est en se confrontant au plus grand qu'on s'améliore. C'est la même chose dans la musique.
Vous avez eu affaire au plus grand, et je pense évidemment, en plus ici, à votre duo avec Johnny Hallyday.
Madame Amélie, au baiser d'une bouche, tous ceux qui sont libres, que le mal a fait bouche, j'oublierai ton nom.
C'est vrai, j'ai eu la chance de chanter avec Johnny. J'étais encore toute jeune, toute petite. Je réalisais pas réellement ce qui se passait. En fait, ce qui m'impressionnait vraiment ce jour-là, c'était la taille de la scène.
C'était le Parc des Princes, c'est ça ?
Le Parc des Princes, la foule qui était devant nous. Ça devient même plus un public, c'est autre chose. On a presque plus le trac, tellement ça devient gros et inhumain.
Johnny, dont les funérailles ont eu lieu ici.
Et c'est vrai, je ne savais plus. Oui.
Et d'ailleurs, il y a eu de nombreuses funérailles de personnes. Il y a eu Camille Saint-Saëns et Gabriel Fauré, qui étaient titulaires aussi de l'orgue, de ce magnifique orgue qu'on a derrière nous, là, et qui ont été enterrés ici. Chopin.
Chopin, ici?
Ouais,
ouais.
Ah
ouais.
Dalida.
Mais vous savez que j'adore Dalida, mais c'est un endroit, je ne sais pas ce qu'il a cet endroit. Il y a un autre endroit dans Paris qui me fait ça, c'est l'Opéra Garnier.
Ah.
Ces deux monuments qui pour moi ont quelque chose, ont une âme, si j'ai le droit de dire ça.
Oui, je pense. Et ce sont deux monuments qui d'ailleurs sont tous deux en rénovation.
Mais c'est important de pouvoir conserver son patrimoine. La France sait très bien faire ça. Étant canadienne, on a très peu d'histoire sur nos édifices, le pays en tant que tel, la Constitution, elle a 400 ans.
C'est jeune.
C'est rien par rapport à vos cours d'histoire. Vous qui êtes enseignante, vous comprenez bien que nous, les cours d'histoire sont beaucoup plus faciles que vous. Et de pouvoir se balader sur ce qu'on appelle, nous, le vieux continent, et de voir cette histoire, de voir toutes ces choses. Je suis allée à Rouen récemment, où j'ai été là où Jeanne d'Arc a été brûlée vive, sur la place de l'Ancien Marché. En fait, pour nous, l'histoire de Jeanne d'Arc, elle est tellement loin, c'est presque du domaine de la légende, de s'imaginer que cet endroit-là a existé pour vrai, d'y aller, que ça devienne concret, c'est très très particulier quand on est Canadien, quand on est Nord-Américain en tout cas, d'être confronté à l'histoire à ce point-là.
Et dans Paris, on a cette immensité de l'histoire qui nous tombe dessus. Moi, je trouve souvent, oui. Vous avez parlé du Louvre tout à l'heure, quand on entre dans la cour du Louvre, j'ai l'impression qu'on reçoit toutes ces années de...
Il y a plusieurs endroits dans Paris qui nous font ça. Parfois, il y a ces rues où il y a la plus vieille petite maison de Paris, le plus vieux commerce. À Montmartre, on a les vieux moulins. J'aime bien aussi aller à la basilique à Montmartre. C'est des endroits où on a l'impression qu'on peut presque... Ça devient presque palpable ceux qui sont passés avant nous.
Merci beaucoup et merci justement pour ce lieu.
Merci à vous.
Et alors, j'ai l'habitude d'offrir à mes invités un livre
c'est trop gentil.
En lien avec le sujet. Alors, j'espère que vous ne l'avez pas déjà. Je le sors de mon sac comme je peux, dans le tote bag à l'effigie du podcast.
Oh, j'adore. Voilà,
je vous laisse.
C'est génial. Merci beaucoup.
Merci.
Livre sur les églises de Paris. Je n'ai absolument pas ce livre et je trouve ça formidable. Je vais découvrir toutes celles que je ne connais pas et je suis convaincue qu'on parlait d'histoire, il y a énormément d'histoire.
Merci Natacha.
Merci à vous. Au revoir.
Et voilà encore quelques merci de fin d'émission. Merci tout d'abord à Natacha Saint-Pierre, évidemment. Merci également à Monseigneur Chauvet et Renaud Keplin pour nous avoir accueillis dans la majestueuse église de la Madeleine. Et enfin, merci à Gaël, Jean-Luc, François et Xavier.